France Inter, 7h30. Soyez les bienvenus. Pour le journal de Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un documentaire choc sur le roi de la pop, Michael Jackson, qui relance contre lui les accusations de pédophilie. Après avoir bouleversé les États-Unis, le film débarque à la télé française et les fans portent déjà plainte. Où l'on reparle de la taxe carbone déclencheur de la crise des gilets jaunes, avec un rapport exclusif ce matin qui propose de remettre la taxe sur le tapis, mais sous certaines conditions, précision du service économique. Dans l'actualité également, Monsanto à nouveau condamné pour son désherbant, le Roundup. La Grande-Bretagne qui s'apprête aujourd'hui à demander officiellement un report du Brexit. On parlera également dans ce journal de la création d'une plateforme de données de santé en France pour améliorer le suivi des patients et de la fédération de rugby qui entend tester le plaquage à la taille chez les joueurs amateurs.
L'acteur Vincent Lindon à l'affiche du dernier film Dernier Amour de Benoît Jacquot en salle aujourd'hui est l'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Et ce film-là n'est pas encore diffusé en France, Sébastien, mais il déchaîne déjà les passions.
Michael Jackson, Leaving Neverland. Ce documentaire est au cœur, en effet, d'une douloureuse controverse depuis 3 semaines aux États-Unis entre ceux qui accusent l'icône de la pop de pédophilie et les ardents défenseurs de sa mémoire. Ce document sera diffusé demain soir sur M6. Un document accablant qui s'appuie sur 2 anciennes victimes. Après avoir nié les abus sexuels, ces 2 hommes racontent pour la première fois, l'autre visage de Michael Jackson. Alexandra Hakoun a pu voir le film.
Difficile de remettre en cause la véracité de ces témoignages tant les récits et les profils convergent. 2 gamins aujourd'hui âgés de 36 et 41 ans, issus de milieux modestes pour qui l'arrivée dans leur vie, dans leur famille, d'une star planétaire comme Michael Jackson est d'abord un éblouissement et qui même des années après ont du mal à expliquer l'ambivalence de leurs sentiments.
Il était l'une des personnes les plus gentilles, les plus douces et les plus attentionnées que j'ai jamais connues. Il a aussi abusé de moi sexuellement pendant 7 ans.
Emprise psychologique, mise à l'écart progressive des parents, premiers attouchements, les techniques du prédateur sont bien rodées, les détails livrés donnent la nausée.
Il était là, avec sa bouche, sur mon pénis d'enfant de 7 ans.
Diffusé début mars aux États-Unis, Leaving Neverland a eu l'effet d'une bombe. D'ailleurs, les héritiers de Jackson réclament 100 millions de dollars de dommages et intérêts à la chaîne HBO. Qu'importe, la chute se poursuit. À Indianapolis, un musée pour enfants a retiré de ses collections des objets ayant appartenu au chanteur au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Le King of Pop est désormais banni de nombreuses radios. La semaine passée, c'est Vuitton qui a décidé de retirer de sa dernière collection toute référence à Michael Jackson. Près de 10 ans après sa mort, celui qui chantait I'm Bad est devenu un paria. 3 associations françaises de fans ont carrément décidé de poursuivre en justice les témoins du documentaire pour atteinte à la mémoire d'un mort.
Voilà le reportage d'Alexandra Hakoun, le documentaire Leaving Neverland, c'est à voir demain soir chez nos confrères de M6.
Il est 7h33, c'est elle qui a tout déclenché, la taxe carbone qui revient sur la table. Information France Inter.
La taxe carbone, celle-là même à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, un sujet devenu tellement inflammable que le gouvernement a décidé de ne plus en parler. En revanche, les économistes continuent d'y réfléchir et pas n'importe lesquels, puisque le CAE, le Conseil d'analyse économique, censé faire des recommandations au Premier ministre, ce CAE donc vient de rendre un rapport sur la question. Il propose de maintenir la taxe carbone, mais en redistribuant ses recettes sous forme de pouvoir d'achat. Rapport qu'a pu lire Maxime Debs en exclusivité.
Le rapport est clair, sans taxe carbone, nous n'atteindrons pas nos objectifs d'émissions de CO2 d'ici 2030. Le fait de taxer les biens les plus polluants ne peut qu'orienter favorablement les comportements pour Fanny Henrier.
Je suis économiste à l'école d'économie de Paris.
Qui a travaillé sur ce document. Encore faut-il que les Français n'aient pas l'impression d'un impôt supplémentaire qui ne ferait que leur échapper.
Ce qu'on propose, en fait, c'est de redistribuer l'intégralité des recettes de la taxe carbone vers les 50% des ménages les moins riches.
Cette redistribution des recettes pourrait se faire selon 2 critères. 1, le revenu donné dont dispose l'administration fiscale, mais aussi 2, pour plus de précision, la localisation géographique des ménages, sachant que l'impact d'une taxe carbone n'est pas le même qu'on habite en ville avec des transports en commun ou qu'on vive à la campagne sans autre solution que la voiture pour se déplacer.
On dit vraiment, voilà, ce n'est pas une taxe de rendement, ce n'est pas une taxe qui vient pour le budget général pour financer d'autres dépenses publiques, c'est une taxe qu'on vous reverse. C'est à la fois une question d'acceptabilité, mais tout simplement d'équité et de justice sociale. On pense que concilier taxe carbone et pouvoir d'achat, c'est la bonne manière de faire.
Reçu hier à Bercy, les auteurs du rapport disent avoir été au moins déjà écoutés. Avec intérêt.
Maxime Debs, au chapitre Gilets jaunes, rude journée pour Christophe Castaner. Hier, le ministre de l'Intérieur eu à l'Assemblée nationale, puis soumis aux questions affûtées des sénateurs sur sa gestion des manifestations de samedi dernier. Une audition lors de laquelle on aura appris que des manifestants ont failli reprendre l'arc de triomphe après avoir cassé la grille du souterrain. Si Christophe Castaner sera toujours en poste, un léger remaniement aura lieu la semaine prochaine au sein du gouvernement. La ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau doit être investie en début de semaine comme tête de liste de La République En Marche pour les élections européennes. Elle démissionnera aussitôt. Il était devenu l'incarnation du système Ben Ali en Tunisie. Belhassen Trabelsi, beau-frère de l'ex-homme fort de Tunis, a été arrêté en début de semaine à Marseille. Il était en fuite depuis des années. La Tunisie demande maintenant son extradition afin de pouvoir juger celui qui avait mis le pays en coupe réglée. Sur place à Tunis, la correspondance de Maureen Mercier.
On le surnomme le parrain. Belhassen Trabelsi, 56 ans, est le symbole du clan Ben Ali et de sa belle famille qui pendant plus de 20 ans fait main basse sur des pans entiers de l'économie tunisienne. Frère aîné et préféré de Leila Trabelsi, épouse de l'ex-dictateur, autant dire que tout lui était permis. Sous Ben Ali, le businessman est l'homme incontournable du régime. Immobilier, commerce, aviation, tourisme, il mène ses affaires au-dessus des lois. Quelques heures avant la chute du régime, il quitte la Tunisie à bord de son yacht accompagné de toute sa famille. Direction le Canada. Là, il n'hésite pas à demander l'asile politique. Le Canada refuse. Belhassen finit par disparaître dans la nature. 3 ans de cavale jusqu'à son arrestation dans le sud de la France. Il est incarcéré depuis lundi à Marseille. En Tunisie, l'homme a déjà été condamné par coutumasse à de lourdes peines, notamment pour trafic de devises, de métaux précieux et d'alcool ou encore pour détention de pièces archéologiques. La Tunisie veut aujourd'hui obtenir son extradition. Une demande formelle va être transmise aux autorités françaises qui n'ont, jusque-là, jamais extradé d'ex-responsables du régime de Ben Ali. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Dans le droit fil des révolutions arabes encore, on a appris hier que le célèbre écrivain égyptien Alaa El Aswani, auteur notamment de l'immeuble Yacoubian, était poursuivi en justice en Égypte pour insultes envers le président, les forces armées et les institutions judiciaires égyptiennes. Alaa El Aswani vit aujourd'hui aux États-Unis où il enseigne la littérature. Viktor Orban va-t-il se faire exclure du Parti populaire européen ? Le PPE se réunit aujourd'hui à Bruxelles pour décider des sanctions contre le Premier ministre hongrois.
7h37, et si l'intelligence artificielle permettait d'améliorer notre système de santé ?
C'est le pari que s'apprête à faire le gouvernement français avec un article de loi passé inaperçu dans le texte en discussion actuellement à l'Assemblée. Cet article, c'est la création d'une plateforme de données de santé. Cette plateforme va centraliser des milliards de données médicales afin d'en permettre l'exploitation via l'intelligence artificielle, afin de favoriser la recherche et d'améliorer le suivi médical des patients. Les précisions de Sophie Becherel.
La France est assise sur une mine d'or grâce à son système unique de sécurité sociale. Des données médicales qui, une fois anonymisées, peuvent améliorer les décisions en santé publique, mais aussi permettre d'être mieux soigné. À côté de cette mine d'or, il y a des filons. Les données hospitalières, celles des centres de radiologie, ou encore les données d'essais cliniques en recherche. Le premier objectif de la plateforme sera de faire un index de toutes ces bases de données et de les harmoniser pour les rendre exploitables. Jean-Marc Aubert pilote le projet à l'adresse la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
La plateforme a pour mission de rassembler des données qui sont aujourd'hui en fait assez dispersées pour permettre ensuite aux chercheurs, publics ou privés, de développer des nouveaux outils d'aide à la décision, d'aide au diagnostic des professionnels de santé, d'évaluer aussi l'efficacité des traitements, un traitement médicamenteux, mais aussi un traitement clinique, pour évaluer l'efficacité comparative et permettre ensuite aux professionnels de choisir les meilleurs traitements.
Cette optimisation, c'est l'intelligence artificielle qui la permet. Aujourd'hui, la machine, par exemple, fait mieux pour détecter un mélanome qu'un médecin. Ce n'est pas encore le cas pour Alzheimer, un cancer ou prévoir l'avancée d'Ebola. Faire de la France un leader de l'intelligence artificielle, c'est aussi le but avoué de la naissance de la plateforme que la loi a prévu d'encadrer. La liberté, par exemple, sera laissée à chacun d'entre nous d'autoriser ou non l'accès à son dossier sous contrôle de la CNIL.
Sophie Bécherel, spécialiste science à France Inter.
Allez, on termine avec du rugby où les choses bougent enfin. On va tester, Sébastien, de nouvelles règles de plaquage.
La décision de la Fédération française de rugby réunie à Marcoussis autour de la question de la santé des joueurs et notamment des commotions cérébrales suite au plaquage trop violent. Eh bien, pour préserver la santé de ses joueurs, la France va pouvoir expérimenter dès la rentrée prochaine de nouvelles normes moins dangereuses et plus favorables au jeu. Fanny Lechevestrier.
Le plaquage, objet de toutes les attentions, car à l'origine d'une blessure sur deux aujourd'hui dans le rugby. Alors pour tenter d'inverser la tendance, le plaquage à la taille et l'interdiction de plaquer à deux vont donc être testés durant une saison dans les catégories amateurs, adultes et jeunes, explique Didier Rottière, le directeur technique national.
Il y a un travail qui est très scientifique, hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment tout mesurer, de voir quel impact ça a sur le temps de jeu, sur les formes de jeu, est-ce qu'il y a plus de plaquage, moins de plaquage, est-ce qu'il y a plus de pénalités, est-ce qu'il y a plus de gestes dangereux.
Un bémol pour le moment, la fédération n'a pas encore obtenu le feu vert pour mettre en place ces mesures chez les espoirs, catégorie particulièrement exposée. Ensuite, qui dit expérimentation ne signifie pas automatiquement changement définitif de la règle, rappelle le vice-président Serge Chimon.
C'est l'exemple de l'étude lancée par la RFU, l'abaissement de la ligne de plaquage des épaules aux aisselles. Tout le monde a pensé que ça allait diminuer le nombre de commotions cérébrales et au bout de 4 mois, ils se sont rendus compte que ça a augmenté le nombre de commotions cérébrales. Donc à partir du moment où, comme vous le dites, on chiffre, on peut étudier rationnellement et objectivement, ce changement est bon.
Mais en servant de laboratoire, la France espère bien déjà réussir une première mission, rassurer ses pratiquants dont les effectifs ont chuté de 10% chez les jeunes.
Le reportage de Fanny Lechevestrier. Ajoutons que la Fédération française de rugby a également annoncé hier une grande étude épidémiologique pour recenser tous les accidents, toutes les blessures dans le rugby amateur, et cela sur 3 ans.
Merci Sébastien, c'était le journal de Sébastien Legénie.